Il n'y a pas tellement longtemps, un prêtre russe me faisait remarquer à propos d'un saint que je ne vous cite pas volontairement parce que je ne voudrais pas que vous pensiez qu'au premier degré qu'il y aurait des réticences au sujet de sa sainteté, mais faisait une distinction entre... Je pense que je force un peu sa pensée. En tout cas, je force l'expression. Il y a des saints moraux et des saints dogmatiques. Les saints moraux, c'est les saints... C'est une distinction qui n'existe pas dans l'Église. Hein, c'est pour la facilité de l'expression que je vous parle comme ça. Les saints qu'on pourrait appeler les saints moraux sont les saints qui ont eu une vie digne, qui ont accompli la loi, qui ont été pieux, qui ont quelquefois fait éventuellement des miracles, et tout ça. C'est la sainteté courante, si l'on peut dire. Et ça, c'est précieux. C'est ça la base, de l'Église. La base au sens, c'est là-dessus que l'Église est fondée. Mais il y a une autre sainteté, qui est la sainteté dogmatique. C'est-à-dire que, en poussant encore un peu, en poussant encore le trait, une sainteté qui n'est pas que de la morale, qui n'est pas que de la piété, mais qui est une conscience exprimée ou non, mais en tout cas vécue, d'une relation personnelle vivante que j'appelle quelquefois mystique dans ce sens-là qui n'a rien avec il n'y a pas la même signification que la mystique dont on parle en Occident où il s'agit de saints qui ont des phénomènes extraordinaires, mais c'est pas ça, quoique ceux dont je vous parle sont encore beaucoup plus extraordinaires que cela. Et cette sainteté dogmatique est, je crois, l'essence de l'Église. C'est la raison pour laquelle je me suis attaché ces dernières années, ces nombreuses dernières années, parce que c'est pas tout à fait... J'ai essayé de le faire toute ma vie d'ailleurs. J'ai essayé de vous montrer... à travers les Saintes Écritures et à travers la vie de l'Église, comment nous dépassons les réalités temporelles, les réalités du temps et de l'espace. Comment, tout en étant et en assumant, quelquefois difficilement, et non sans échec, comment comment nous assumons la vie de ce monde, bien qu'on n'était pas de ce monde, en ayant conscience que si nous assumons ce monde, nous vivons aujourd'hui, maintenant, et consciemment, et réellement, une autre dimension de l'existence, la dimension éternelle. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que mais je dis ça, c'est pas encore un testament, mais pour nous, que vous vous attachiez toujours, envers et contre tout, et malgré les l'évolution du monde et les difficultés que nous avons dans ce monde, que nous rencontrons, que vous vous attachiez toujours à cette compréhension de la vie de l'Église, des sacrements, de la prière, et même de tout ce qui est moral, mais sans s'attacher à la morale elle-même, qui est bonne. Je ne vais pas la critiquer. Mais Saint Paul nous montre à maintes reprises que ce n'est pas la morale, ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas le respect de la loi qui sauve, mais c'est la grâce de Dieu. Et pour cela, il faut... lire les Saintes Écritures en voyant la réalité, en voyant l'expression, en voyant la manifestation de Dieu. Dans les Saintes Écritures, le Père nous parle de lui-même et de parle de Dieu. Il se manifeste à travers le Christ. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et non seulement comprendre intellectuellement, mais nous attacher à lui. Et pour cela, donc, le Père se révèle à travers son Fils. Nous sommes appelés à nous attacher à son Fils. Mais ceci n'est pas possible par nos propres forces, ce n'est possible que par la grâce du Saint-Esprit. Ainsi, ce sont les trois personnes divines qui œuvrent pour notre salut. Mais nous ne sommes pas des esclaves, et cela ne peut se faire qu'avec notre collaboration relative suivant les personnes, chacun suivant ce qu'il peut, et surtout ce qu'il veut. Donc ça, je crois que c'était quelque chose à conserver toute notre vie. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que ça correspond, c'est ce qui me fait penser à vous dire ça aujourd'hui, c'est les quelques premiers versets de l'épître que nous avons entendu aujourd'hui et que nous pouvons relire éventuellement. De deux, il n'a fait qu'un. De deux quoi ? Ça, c'est la question. De deux natures, de la nature divine et de la nature humaine, Dieu a suscité un Christ, un envoyé, un Messie, Jésus, qui est à la fois Dieu, oui, c'est ça, et à la fois homme. De Dieu, il n'a fait qu'un. Par voie de conséquence, et dans sa volonté divine, Dieu a organisé, a fait l'homme de deux éléments. Un élément psychique, corporel et intellectuel, si vous voulez, et un élément spirituel. Il a pris de la glaise, il a soufflé l'Esprit Saint, qui est la vie. Donc de deux, il a fait un en nous. Et nous, nous sommes ces deux. Et Saint Paul dit que le Christ est la paix, et la paix du monde. Ça ne veut pas dire qu'il donne la paix. Il ne s'appelle pas Monsieur Trump. C'est pas lui qui fait la paix politique. Il amène une autre paix. Il amène la paix dans cette unité qu'il compose, des deux qui sont unis. Dieu et l'homme en Christ. Dieu et les hommes avec le Christ qui est la paix parce que en lui et par son sacrifice, par sa vie, le fait d'avoir assumé les conséquences de notre péché pour lequel il n'est rien, en assumant sa mort avec notre mort, pour manifester sa résurrection avec notre résurrection. De cette manière-là, le Christ crée cette harmonie. Et cette harmonie, elle est en lui. C'est dans la mesure où on est attaché à lui, dans la mesure où on devient ce qu'il est, par la grâce du Saint-Esprit, mais avec notre collaboration, c'est de cette manière-là que nous acquérons la paix et que nous sommes en harmonie avec Dieu, en Christ. C'est la raison, par voie de conséquence, là je vais en arriver à la morale, qui n'est pas rien non plus, c'est la raison pour laquelle il importe tellement de créer la communion, de créer les conditions nécessaires à une communion les uns avec les autres, et même avec ses ennemis. De manière à créer de ces deux mondes, amis et ennemis, les peuples entre eux, les personnes entre elles, hein, de créer cette unité et cette paix. C'est ce que vous réalisez, par exemple, ou c'est en tout cas votre vocation, de réaliser dans le mariage. Le mariage, c'est deux êtres personnels. Donc personnel, comment vous dire, c'est pas deux individus, c'est justement deux personnes qui sont deux identités libres, mais qui librement s'unissent pour épouser, dans tous les sens du terme, pour épouser l'autre et devenir l'autre. Ce qui est beau quand on le présente comme un idéal, mais qui n'est pas facile quand on veut le réaliser. Croyez bien que dans la vie monastique, c'est la même chose. Si vous croyez que c'est facile aux sœurs de me supporter, détrompez-vous. Et voyez bien qu'elles ne réagissent pas en vous disant « Non, je tâtais le terrain, mais loupé. Une partie de notre être est malade. Donc, plutôt que de s'ouvrir à l'autre et d'accepter l'autre, s'enferme sur sa volonté, sur son identité, sur sa domination, et brime l'autre, veut que l'autre devienne ce qu'il est. Alors que la vie en Christ nous conduit non pas à maintenir, non pas à préserver comme un butin personnel notre être, mais à le donner à l'autre, à l'offrir à l'autre, qui en fait après tout ce qu'il veut, ou ce qu'il peut. Et ce n'est réalisable que en Christ. Et c'est dans la mesure où l'un et l'autre, quel que soit le niveau de collaboration, que ce soit dans le niveau d'un couple, que ce soit dans la vie monastique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tous les domaines, ce n'est qu'à partir du moment où on s'attache au Christ, où on veut avoir la vie du Christ, où on partage sa vie, où on l'appelle, où on le contemple, on le cherche et on essaie de l'imiter fondamentalement, que l'on acquiert la paix, c'est-à-dire l'harmonie. Vous pouvez voir que saint Paul nous parle du Christ qui est la paix, non pas qui donne la paix, mais qui est la paix. Et c'est la même chose que le Christ nous a dit dans ce que nous avons chanté tout à l'heure, « Bienheureux les artisans de paix, car le royaume des cieux est à eux. » Les artisans de paix, c'est pas la paix politique ou social, ça passe aussi par là. Il faut tendre à ça. Mais là n'est pas le but, c'est une autre paix dont il s'agit. Cette paix-là, la paix telle que Dieu la donne, la paix telle que nous la recherchons ou devons la rechercher, c'est la paix que nous devrions ressentir pendant la liturgie. Ou, pour reprendre encore le terme de saint Paul, de deux, il n'a fait qu'un. De deux quoi ? Encore. De deux mondes. Le monde éternel, le monde incréé, et le monde créé dans lequel nous sommes. Avec les anges, les archanges, les saints, et les hommes présents, passés, c'est-à-dire morts maintenant, et ceux qui sont encore à venir. C'est cette paix-là, c'est cette harmonie-là et la liturgie et la liturgie, c'est la manifestation, c'est l'expérimentation à travers des symboles, certes, mais avec une union normale, fondamentale, une union des cœurs ou des âmes, c'est l'expérience des deux mondes qui sont unis et qui vivent ensemble, l'un n'effaçant pas l'autre, mais l'autre transfigurant l'un. C'est ce que nous chantons par des nous qui mystiquement représentons les chérubins, nous qui sur terre imitons, oui, participons à la vie des à la vie des anges, déposons tous, oublions notre condition terrestre, pas simplement les soucis, nos soucis de d'impôts qu'il va falloir payer, de dettes qui ne sont pas honorées, ou de la maladie de notre petit dernier. Oublions tout ça et mettons tout dans les mains de Dieu. Déposons tout souci de cette vie. C'est-à-dire, élevons notre cœur à un autre niveau de notre existence, au niveau du royaume des cieux. C'est ça la paix entre deux mondes, entre ces deux, le monde céleste et le monde terrestre. Et cela n'est pas, ce n'est pas une littérature, ça, c'est l'expérience de l'Église, mais à laquelle chacun de nous doit participer pour le ressentir, pour le vivre, pour le désirer et pour le ressentir. Voilà ce que saint Paul m'a dit de vous dire aujourd'hui. Les paroles, c'est des paroles quelquefois mystérieuses. De deux, il n'a fait qu'un, tu parles. C'est pas compréhensible directement. Mais ce n'est pas en ayant des inspirations individuelles que l'on peut comprendre cela. Même pas avec une inspiration spirituelle, une inspiration de l'Esprit Saint. C'est en scrutant, en s'aidant avec les Saintes Écritures et avec ceux qui ont médité pour nous les Saintes Écritures. On n'a pas tous la possibilité d'être des grands théologiens et de lire toutes les œuvres de tous les pères et depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. C'est pas possible, on n'est pas des bibliothèques ambulantes. Mais on doit trouver le moyen, à travers ceux qui nous ont précédés, le moyen de prendre le résumé, de prendre ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est cela la vie de l'Esprit Saint. C'est pas de l'invention personnelle, c'est vraiment l'insertion dans une tradition théologico-mystique. Voilà où il faut aller. Merci.